Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et là, t'es dans la chambre de la chambre d'adolescent de David chez tes beaux-parents. Là, j'ai l'impression.
Non, je suis dans le bureau de son papa. Ouais.
T'es dans quoi ?
Dans le bureau de son papa.
Ah, parce ouais. qu'il y a une photo d'enfant et tout.
Ouais. C'est les cousins et David, ouais. Et son petit frère. Ouais, il y a tout le monde.
Bon, dis-moi. On va résumer, on va se la faire courte. Il y a 6 mois, vous avez pris David et toi, donc David, ton mari, un congé sabbatique pour 6 mois. Vous en avez profité en toute discrétion pour battre le record Guinness du Tour du Monde à vélo en duo. Alors peut-être qu'il y a une catégorie solo, je ne sais pas. Toujours est-il que vous avez fait 29 000 km en 6 mois. Tout ça, c'est super comme Matrix, mais la plus importante des données chiffrées, combien de disputes ?
Une par jour.
Oh là !
Ça fait 200, je crois qu'on a fait à peu près 200 jours, donc ça fait 200 disputes.
Non, et pour quelle raison ? Majoritairement, c'était divergence de tracé, fatigue extrême, tu t'es rendu compte, ou lui s'est rendu compte que finalement vous n'avez rien à faire ensemble ?
On avait vraiment généralement des thèmes, il y a des thèmes de dispute dans le couple sur cette route. Alors, le premier, c'est surtout au début, mais même vers la fin, il y a Caroline un petit peu négative qui pense qu'on n'en fait pas assez. Donc genre au début quand on était au Canada, aux États-Unis, je disais toujours mais 170 km, ce n'est pas suffisant, il faut faire plus. Si on fait plus maintenant, on aura moins à faire à la fin, etc. Alors que David, lui, très très médical, il dit non, il faut qu'on dorme. Il a dit c'est pas un ultra, on fait 8 à 9 heures par nuit, comme ça on n'a pas de problème de santé, on ne se détruit pas l'organisme et on profite un peu quand même sur le vélo, etc. Je m'en fiche si à la fin il faut qu'on passe un gros push. Parce que il s'est dit on aura l'endurance pour. Moi j'étais plus en mode course, lui était plus en mode préservons-nous. Donc c'était un petit peu les disputes. Et puis après je pense à la fatigue aussi parce que David il est pas du tout patient et que quand ça part d'un coup il me sort de ses insultes, des trucs genre moi je suis toute contente, je suis en train de chanter, il me dit mais putain mais ta gueule. D'accord, ça fait plaisir, merci quoi. Donc, quand il y a un truc qui le stresse, ben, je suis son punching ball quoi. Donc je dis ouais, merci, ça fait plaisir. Mais bon, c'est vraiment c'est genre un mot qui sort, mais ça se règle tout de suite. On n'a pas eu de moment où on s'est dit on peut plus s'entendre, faut qu'on s'arrête ou il y a des doutes quoi. C'était vraiment juste des petites engueulades comme ça. Voilà.
Alors. L'excuse de David le médecin, préservons-nous, attention, le capital santé, on n'a qu'une vie, tous ces trucs-là. Est-ce que c'est pas un petit peu de la mauvaise foi, sachant que toi, tu es parti hyper bien entraîné, hyper bien préparé, et comme tu me l'as confié il y a quelques semaines, le voyage lui a fait beaucoup de bien parce qu'il a perdu quand même pas mal de poids. Et tu m'as dit, il en avait bien besoin. Donc, est-ce que vraiment, c'est parce que, en fait, il était un petit peu à bloc derrière toi et que toi, tu pouvais continuer ?
Oui, je pense que je suis naturellement plus endurante que lui et j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil. Moi, par nature, je survis bien sur du 5 heures, 4 heures, ça va, je suis bien. David a besoin de beaucoup dormir. Donc, oui, c'est un petit peu. C'est un petit peu une excuse. Après, à la fin du voyage, il avait bien récupéré, il tenait très très bien, il n'y avait pas de souci. Mais oui, au début, je me souviens, la première journée au Canada, il me l'a dit que maintenant, il ne m'a pas dit ça à l'époque, mais il m'a dit, ouais, je me souviens finir la journée en me disant, mais on va pas, comment on va être capable de faire ça pendant 6 mois, quoi. Alors que moi, j'étais en mode, non, mais ça ira. J'étais tranquille, quoi. Enfin, c'était avant que la nuit ne commence et que je me gèle et que je ne dorme pas de la nuit, mais ouais.
Bon, alors, tu vois, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, là, ça fait à peu près la troisième ou quatrième tentative que l'on fait ensemble. J'ai ressorti le lien de connexion qui datait du 9 février. J'étais hyper content parce que je m'étais dit « Ah, je vais faire un épisode spécial Saint-Valentin et tout avec Caroline !» Et puis en fait, bon, t'étais en transition à Londres, au bar d'un hôtel à Londres du coup, et ça ne captait pas du tout. Donc là, on a été obligé d'abdiquer. Ouais. Donc, je vais reprendre en fait mes questions qui datent d'environ 4-5 mois quasiment. D'accord. Donc, mais malgré tout, ça n'a pas changé. Tu vois, quand je prends la première question, c'est bravo pour la légèreté du ton et pas du tout moralisateur sur l'état du monde et autres. Ouais. Et c'est vrai que j'ai apprécié que vous alliez rouler en Alaska, aux États-Unis, puis en Afrique et puis au Portugal, etc., sans avoir un regard un petit peu naïf de voyageur qui découvre le monde en nous disant « Oh, regardez comme c'est, nous on a quand même beaucoup de chance ». Vous êtes contenté de rouler, de nous montrer les paysages, de nous montrer les gens, sans forcément nous en faire trop en fait dans le genre « Oh, regardez l'état du monde, on a quand même beaucoup de chance ». J'avoue que j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié.
Merci. Je sais pas quoi dire. Enfin, merci. Oui. Enfin, on a vraiment essayé d'être naturel et de montrer le bien, le mauvais et un petit peu tout. On voulait pas faire un truc trop lissé. On voulait juste être nous-mêmes en fait. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, il y a des endroits qui sont plus durs que d'autres au niveau économique, etc. Mais ça n'a pas empêché de voir plein de gens super heureux et super bien. Donc ouais, peut-être qu'on est trop naïf, je sais pas.
Alors, la naïveté, bon, je sais pas. Parce que
notre mission, c'était pas de faire quelque chose de politique, de toute façon.
Ça t'a de toute façon pas empêché de te disputer, notamment avec une femme bolivienne, je me souviens, qui a essayé de te griller dans une file d'attente pour un test. Et c'est quand même parti en pugilat avec cette dame.
C'était pas pour un test, c'était. La frontière, en fait, c'était une des frontières les plus dures qu'on a eu à faire entre la Bolivie et l'Argentine. On s'était déjà fait refouler la journée d'avant, mais ils te font attendre mais pendant des heures et ils te disent pas, tu vois, oh, on va prendre 10 personnes de plus et les autres rentrer chez vous. Non, ils te font attendre sans savoir en fait. Donc on a perdu une journée à cause de ça, à cause de la Covid et tout. Donc le lendemain, on y était depuis 4 heures du matin et il y avait d'autres personnes qui étaient là avec nous la veille et tout. Donc on avait une sorte de forme, une petite communauté, tu vois. Et cette nana, elle arrive et elle passe devant tout le monde avec sa valise et elle se pose. Et personne ne dit rien, parce que des Boliviens, ils sont un petit peu, tu vois, ils ne voulaient rien dire. Et moi, je vais la voir, et en gros, j'essaie de vous parler anglais. Elle me dit, ouais, un petit peu, et tout. Je dis, mais pourquoi vous passez devant tout le monde? Et là, elle commence tout de suite à partir en espagnol, à m'expliquer des trucs et tout. Moi, j'ai dit, non, mais je m'en fous de tes explications. Du coup, j'ai pris le vélo, je me suis mis devant elle, et après, je lui ai dit, ouais, F you, quoi. Bref, je dis, ça, je sais que tu comprends. Elle a pas du tout plu. Et ce qui est marrant, c'est que quand moi je me suis rebellée, après tous les Boliviens, ils se sont rebellés aussi contre elle. Ouais, j'ai fait une petite émeute, c'était sympa. Elle est partie à la fin de la queue.
Ouais, alors, cool. Est-ce que c'est pour ça en fait? Parce que souvent, quand dans les épisodes que tu as tous écoutés, parce que tu es une auditrice fidèle, bien entendu. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai en plus.
Certains pourraient croire. Franchement,
certains pourraient dire que je me la pète, mais en fait, non, c'est vrai. Caroline est une auditrice fidèle. Je suis toujours en admiration, tu sais, de la fresque murale en Colombie de Egan Bernal. Et je crois bien que maintenant, il y a une fresque murale à ton effigie en Bolivie quand même, hein, parce que tu les as émancipés, en fait, ces gentils Boliviens.
À la frontière, ouais.
Voilà, tu les as émancipés à la frontière.
Et j'ai sauvé un agneau aussi, un bébé chèvre aussi en Bolivie. Ouais, ça a été cool, la Bolivie, j'ai adoré. C'était vraiment chouette quand même.
Alors, un bébé chèvre et un agneau, ce n'est pas le même animal. Hein.
La bébé chèvre, ça s'appelle comment?
Un chevreau. Ouais, un chevreau. Après, je ne suis pas sûr. Hein. Peut-être qu'il y a des spécialistes du monde agricole qui vont nous contredire. Mais alors, raconte-moi ça, parce que quand même...
Non, mais tu sais que j'en ai fait des sauvetages d'animaux. Maintenant, tous mes amis à Londres, ils m'appellent Docteur Doolittle. C'est mon surnom maintenant. C'était un chevreau donc qui était complètement paumé sur la route, mais genre en panique totale, il est totalement désorienté. Il commence à normalement les animaux, ça fuit un peu quand ça voit les cyclistes, ça se met pas dans tes roues quoi. Et lui vraiment, il se mettait dans les roues et quand on essayait de partir, il nous suivait. Il était en mode sauvez-moi quoi. Alors, il y avait quelques troupeaux, mais ils étaient quand même loin. Du coup, j'ai dit à David, on va pas laisser cette petite chose là, c'est pas possible. Donc du coup, je l'ai mis dans mon gilet et j'ai fait le vélo avec jusqu'à qu'on trouve un village pas loin. où du coup j'ai trouvé une Bolivienne et je expliquais qu'on avait trouvé le chevreau et je lui ai donné le chevreau. Et David, toujours super cynique, qui me sort, ah c'est super, tu leur filais son déjeuner. Je dis mais non, enfin c'est une petite communauté, un chevreau ça a une valeur quand même. Donc s'il y a quelqu'un qui a perdu un chevreau, je pense que ça sera signalé et elle lui rendra quoi. Je dis mais David tout de suite en mode ah c'est super, tu vois, tu leur filais le déj. J'ai fait mais non.
Non, mais comment est-ce qu'on peut prétendre être encore un qui a eu son diplôme de médecine ailleurs qu'en Angleterre? C'est pas possible. Hein. Il l'a acheté dans un pays quelconque. Hein. Je peux pas y croire qu'on soit aussi cynique.
Tu sais, ils en voient beaucoup, je pense, les médecins. Bon,
mais je sais bien. Alors, par contre, ça fait une transition idéale parce que avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit. Donc là, en fait, nous sommes samedi soir. Non, on est dimanche soir.
Dimanche soir.
Et tu es arrivé à Londres il y a 2 jours, à peu près.
Non, je suis arrivé hier, samedi.
Ouais, es arrivé hier et vous reprenez le travail mardi avec David. Donc c'est toi, ça. Tu vas retourner dans le monde merveilleux de la finance. David va retourner développer son talent de cynisme, de médecin. Du coup, est-ce que tu reprends dans la finance ou est-ce que tu as trouvé un stage dans une petite clinique vétérinaire?
Non, malheureusement, non. Non, je reprends dans la finance, je reprends dans le même job où j'étais en septembre quand je suis partie. Mmh. Et David, lui, pareil, il commence un nouvel hôpital parce que lui, il fait des rotations de 6 mois. C'est pour ça que ça marchait bien pour nous, 6 mois. Et donc, il commence dans un nouvel hôpital mardi. Voilà, donc on reprend tout comme avant.
Pourquoi vous êtes partie? Pourquoi Parce qu'au bout du compte, David, il est médecin, il a un parcours scolaire exemplaire. Toi, tu as un parcours scolaire plus que exemplaire et une carrière fantastique. Pourquoi quitter ce confort douillet pour aller te faire insulter en Afrique, je me souviens du « fuck you, madame », pour aller te taper des troubles alimentaires divers, pour être obligé à porter une chemise multicolore hideuse Non, je rigole, en plus, je l'adore ta chemise.
Ah, je sais.
Ah, elle est sublime. D'ailleurs, tu me diras où tu l'as achetée parce que je pense que je suis capable de m'offrir la même. Je l'adore ta chemise.
Je l'ai achetée dans un marché à Windhoek, en Namibie. Donc, ça sera dur à trouver.
Ouais, d'accord. Donc, ça va être bien compliqué encore cette affaire. Je suis pas prêt de porter une chemise. Hein. Bon, tant pis. Ça ne change pas le sens de la question. Pourquoi renoncer à ce confort et à cette douceur de vivre pour aller te choper un mal de ventre de tous les diables au fin fond de l'Afrique?
Parce que le confort déjà ça ramollit et c'est pas une manière de vivre. Donc chercher l'inconfort, nous on le fait tout le temps, même si c'est pas dans le sport, c'est dans des projets perso qu'on a, entrepreneuriaux, etc. Donc ça déjà c'est un peu dans nos personnalités, on est un peu des gens extrêmes avec David. Mais ensuite c'est parce que ben justement on voulait un petit peu montrer aux gens en fait que on n'a pas besoin si on veut faire un peu de l'ultra ou si on veut faire de l'aventure, on n'a pas besoin forcément d'être un étudiant ou d'être quelqu'un qui fait ça à temps plein. Alors évidemment ça aide parce que ça permet d'avoir plus de temps, etc., pour mieux préparer son voyage. Peut-être que si on était à temps plein, on aurait peut-être moins de mauvaises surprises. Mais c'était un petit peu un moyen de montrer que voilà, tu peux avoir un prêt à payer et tu peux avoir une carrière si tu prépares bien les choses quand même et que tu essaies de négocier avec ton patron, etc. Il y a des chances que tu puisses accomplir un rêve qui est le tien et que t'es pas forcément obligé de renoncer à tout et à tout ce que tu as fait. Parce que moi, personnellement, comme tu disais, j'ai fait des études, etc. Ça me ferait un petit peu mal au cœur, j'avoue, du jour au lendemain, de quitter mon job et de laisser un petit peu tomber l'investissement que j'ai fait dans le passé, dans ma carrière. Quoi. Voilà. Je dis pas que ce sera pas quelque chose que je ferai un jour, mais pas juste pour un voyage. Quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu l'idée.
J'avais une question hyper intéressante, ça m'arrive souvent, ça tu le sais, j'ai
ça
souvent des questions.
Ouais, je pense que tu devrais.
Ah ouais, mais mes questions intéressantes, généralement, je les oublie, je suis obligé de dire une grosse connerie à la place.
C'est pas grave.
Donc ça, c'est vraiment terrible, terrible. Hein. C'est un handicap. Donc je vais enchaîner sur une vieille question. Ouais. Combien de temps Non, tiens, ça, c'est par contre, c'est vachement bien ça. D'avoir ce petit pense-bête de vieilles questions qui n'ont plus aucun rapport. Combien de temps David a-t-il gardé ses serviettes autour du guidon?
Ah, ça. Alors ça,
non, mais tu notes que j'ai suivi quand même. Hein. Tu notes que j'ai suivi quand même. Hein.
J'avais ça. Alors, les serviettes autour du guidon, il avait déjà commencé à avoir mal aux mains. Ça, je lui avais dit de mettre des prolongateurs et d'acheter des gants et tout. Il ne m'écoute pas. Bref, aux États-Unis, il avait déjà commencé pas mal à avoir mal aux mains. Et c'est en fait donc en Bolivie, c'était de pierre en pierre, donc on a échangé. Moi j'ai pris ça, je sais pas comment on appelle ça, le stem, donc la tige. Je
potence.
Pense. Ouais, la potence. J'ai pris sa potence à lui, lui il a pris la mienne pour que ça soit plus court, pour qu'il ait moins de pression dans ses mains. Et ouais. En fait c'est surtout quand on est arrivé en Argentine, parce qu'en fait en Argentine, comme on devait faire principalement notre voyage d'ouest en est, on devait traverser l'Argentine. Et il s'avère que traverser l'Argentine, ben c'est pas facile. C'est-à-dire que si tu veux faire les Andes et aller en Patagonie, c'est super l'Argentine, c'est beau, les routes sont tranquilles et tout. Tu veux traverser l'Argentine d'ouest en est comme ça, ben c'était grosse route, super super, enfin busy quoi. Il y a énormément de trafic et c'est vraiment dangereux. Donc du coup, ben pour éviter un peu les autoroutes, on s'est parsi mais des tonnes de gravel. Et c'était pas du gravel princesse bien tassé quoi, c'était ça secouait bien. Et là les mains
de David, c'était du gravel beach donc.
Ah ouais. Et là les mains de David, elles en ont pris vraiment énormément. Et c'est là qu'il a mis ses serviettes et tout. Donc il a gardé ça quand même pendant un certain temps, ce qui n'a pas forcément bien marché parce qu'en fait ça surélevait ses mains et ça mettait encore plus de pression en fait sur le nerf ici. Et heureusement, en fait, on avait prévu à cause de la Covid et comme on savait qu'il y avait Omicron qui venait commencer en Afrique, que c'était toute une crise, on s'était dit que moi, j'avais pas encore eu mon booster, qu'on allait rentrer à Londres et qu'en fait, le 25 décembre, on allait en profiter pour passer la journée à Londres, me faire faire mon booster et repartir en Afrique. Et quand on est arrivé à Londres, en fait, moi, j'avais commandé sur Internet des prolongateurs pour David. Qu'on a récupéré à Londres et qu'on a mis sur son vélo. Et là, il a plus besoin de mettre ses serviettes et ses mousses et comme ça.
Voilà. C'est dommage parce que ça donnait quand même une petite touche extrêmement exotique à son vélo.
Ah mais je veux dire quand même, je sais pas, je pense qu'il faudra que je t'envoie une photo. Son cockpit actuel est quand même pas mal hein, parce qu'il a plus la mousse mais il a d'autres trucs hein. Il s'est fait une espèce de montage avec des sparadraps pour attacher sa lampe exposure en dessous. Ensuite il a mis des c'est comment on appelle ça les moi, je peux pas parler français, c'est dramatique.
Vas-y, je traduirai.
Les zip tags. Il s'est mis deux zip tags pour accrocher sa montre parce qu'il a quand même fait le tour du monde avec juste la petite montre Garmin. Et après, il a mis son gros rétroviseur au-dessus. C'est excellent. Quand on est arrivé à Villiers, à Venise, c'était quand on est arrivé à Villiers, vendredi soir, on a vu un des représentants de Villiers, l'Italien. Puis je lui sors, alors vous avez pensé quoi à Villiers du cockpit de David? Il a fait, well, it's not very aero. J'ai fait, ouais, tu parles, c'est pas aéro du tout, c'est moche. Mais
ouais. Ah non, mais par contre, à New Delhi, il peut facilement gagner un petit concours avec ça à New Delhi, tu sais.
Je pense, ouais,
avec les machins qui clignotent de tous les côtés, ça, avec ça, il est super à l'aise.
Ouais, mais il a trop la classe, là. David, avec son petit rétro, pas petit, il est énorme son rétro. En plus, j'ai dit, oh là là, tu vas te faire des nouveaux amis avec ton rétroviseur, c'est trop la classe.
non, mais franchement. Pourquoi être parti parce qu'on s'imagine souvent un voyage autour du monde comme un truc un petit peu. Ouais, de découverte, etc. Et là, quand même, vous étiez quand même clairement dans une optique de record du monde avec le Guinness Book. Ça s'organise comment? Parce que quand on a parlé régulièrement, tu me disais que vous faisiez des micro-étapes et que vous suiviez finalement un parcours préétabli, que vous étiez en relation sans cesse avec les gens du Guinness Book pour s'assurer de la validité de votre périple.
C'est ça. Alors, en fait... pourquoi est-ce qu'on est parti? Parce qu'en fait, donc déjà, on n'a pas battu un record, on l'a mis en place. Donc déjà, ça enlève pas mal de pression. Ouais, c'est le premier. Donc c'est facile à. Ce qu'on espère, c'est que par la suite, il y aura un couple qui viendra.
Il était facile à faire parce que vous étiez les premiers.
Voilà. Le seul truc, c'est en fait, on savait qu'on avait que 6 mois pour le faire à cause du travail. Donc on s'est dit, pourquoi, si on fait ça en 6 mois, pourquoi pas essayer de faire un record et de nous mettre un petit peu la pression, en fait, de nous motiver, de nous pousser. Et puis ça nous permet aussi, parce que c'est très difficile, tu vois, qu'est-ce qui qualifie un record du monde, en fait, ou qu'est-ce qui qualifie, pardon, un tour du monde? Est-ce que c'est de faire tous les pays? Je veux dire, par exemple, il y a plein de gens qui font généralement un tour du monde, c'est la route classique avec un tailwind de fou furieux où tu passes par la Russie, la Chine, puis le nord des États-Unis, tu reviens en Europe. Mais tu fais ni l'Afrique, tu fais pas l'Amérique du Sud. Donc, tu pourrais dire, t'as oublié ce continent-là. Bref, c'est. Donc, nous, on s'est dit, si on fait ça avec le Guinness, ça nous donne l'avantage d'avoir des règles claires et qui qualifie comme étant un tour du monde, en fait. Donc, ça, on a fait ça un petit peu parce que, ouais, je pense qu'on est un peu détordu, qu'on aime bien avoir des règles, quoi, ça nous aide. Donc, du coup, on a fait ça. Et oui, ça s'établit. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est pas mal de travail avant. Il faut écrire à Guinness, il faut qu'ils acceptent déjà la candidature. Ensuite, il faut qu'ils revoient ta route, qu'ils disent oui, on est d'accord, cette route, elle marche. Et après, t'as pas forcément besoin de rester en contact avec eux, mais nous, on a dû rester énormément en contact avec eux à cause de la Covid, parce qu'on a dû faire des changements par rapport à la route, parce qu'il y a des trucs qu'on pouvait plus faire. Et après, on a un petit livre aussi, partout où tu passes, ben, il faut que tu fasses signer les gens, c'est tes témoins, en fait. Moi, je dis à David, je vois pas du tout comment est-ce qu'ils vont retrouver Juanita au fin fond des salars de Uyuni, quoi, mais bon, si ça leur fait plaisir, donc toi tu prends le numéro de téléphone et tout. c'est ton truc de témoignage. Et après, donc là pour l'instant on a le record, mais c'est pas encore validé officiellement, c'est-à-dire que maintenant ils vont devoir revoir tous nos trucs. Et par exemple, comment elle s'appelle, la fille qui a fait le record du monde, Jenny Graham, quand elle a fait son record, ils l'ont validé officiellement que 2 ans après, donc ils prennent leur temps, hein. C'est que Guinness, c'est particulier parce que c'est pas du tout des cyclistes, ils valident des records, genre le type qui porte une tondeuse avec sa bouche le plus loin, quoi. Donc ils regardent un petit peu tout. Non mais ça, c'est un record qui existe, hein. J'ai vu une vidéo, je me demande pas pourquoi.
Non mais je vais aller regarder tout ça tout à l'heure.
Ouais, parce il marche, que il tient la tondeuse.
c'est quand même assez captivant, mais tu sais, alors pour faire une parenthèse, j'aime bien regarder le vélo à la télé, bien entendu. Ouais. Mais ce que j'adore sur l'équipe.fr ou quand j'étais plus jeune sur Eurosport, c'est le concours de l'homme le plus fort du monde. Ah, et quand oui, j'étais en Écosse,
quand tu tires les camions et tout.
Oh non, mais j'adore regarder ça parce que ce qui est beau, un des trucs qui est beau dans le sport, c'est sa parfaite inutilité en fait. D'une certaine manière. Et là, tirer un camion ou lancer un tronc d'arbre le plus loin possible, c'est quand même une sorte de championnat du monde de l'inutilité.
Tout à fait. Moi, j'ai de la chance quand même de vivre en Angleterre. On a quand même des sports où tu te dis pourquoi est-ce que c'est un sport en soi, mais après quand tu regardes, en fait, oui, c'est le sport ultime. Tu vois. Donc, par exemple, bah, les fléchettes, c'est tellement énorme en Angleterre. Il y a plein de gens qui diraient mais c'est pas un sport. Mais si, c'est un sport. Il y a même des gens qui te diront c'est le sport ultime. Et en plus, c'est un sport qui donne des chances à des gens qui dans la vie ne feraient rien, resteraient au bar toute la journée à rien faire. Et là, d'un seul coup, tu donnes à un alcoolique la chance d'être un athlète. Quoi. C'est génial les fléchettes. Donc on en a plein des comme ça. Ouais, j'aime bien moi les sports un peu bizarres.
Bah, je sais pas si c'est bizarre parce que finalement là tu parles de fléchettes, ça veut quand même dire coordination, réflexion, gestion, focus. Ouais. Ça ressemble beaucoup au tir à l'arc japonais. Ça veut dire lâcher ouais. son geste, être souple. Ça ressemble finalement à plein d'autres sports. Ouais. C'est pas en bourrinant comme un âne qu'on atteint le centre de la cible. Il faut fermer les yeux, quoi, comme dans le tir à l'arc japonais, en fait. Donc, ouais. Peut-être que finalement, la plupart des alcooliques anglais sont des japonais refoulés. Va savoir.
Et surtout, ils ont une capacité à tenir une fléchette sans bouger en ayant beaucoup d'alcool dans le sang. Ça, c'est une vraie qualité.
Et c'est une qualité que tu possèdes ou tu y travailles?
Vaut mieux pas que j'y travaille parce que sinon on s'en sortira plus, je pense. Non, moi je la possède pas du tout. Non, moi tu me donnes une bière et c'est parti, quoi. Je peux, hein, mais c'est pas une bonne idée, surtout après 6 mois sur le vélo.
Je pense. Ouais. Tout à l'heure tu me disais justement, on parlait du voyage, du côté on veut montrer que on peut avoir une carrière, que on n'a pas besoin d'être forcément un étudiant esselé ou un célibataire pour partir. Ouais. Justement, donc vous avez tenu à garder contact avec vos parents, avec votre famille. Comment ta mère a supporté ce voyage ? Parce que pour rappeler le contexte donc du premier épisode que l'on a fait ensemble, tu m'avais expliqué que ta mère flippait grave sa race devant tes aventures. Donc là, t'imaginer en Namibie ou en Tanzanie ou en Bolivie te battre avec une autochtone, comment elle a passé ces 6 derniers mois, ta mère ?
Elle m'a dit qu'elle a pris 10 ans et qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Mais non, elle a été très, très cool. Franchement, je lui dois ça. Je pense même de tous les parents, ça a été la plus relaxe. Hein. Elle et le papa de David, finalement, ça a été... je pense qu'ils se sont fait une raison et que finalement, ils nous ont dit on les soutient. Et voilà. Bon, elle m'a quand même dit dès que je suis arrivée, bon, maintenant, les choses sérieuses, tu fais des bébés et moi, je vais à Lourdes parce que franchement, j'ai tellement pris pour que tu reviennes en pleine forme. Il va falloir que je fasse un pèlerinage. J'ai fait, ouais, moi, si tu veux. Voilà. Non, Les plus paniqués, c'était plus mon père et la maman de David. Alors, la maman de David, en plus, elle n'avait pas trop capté qu'on avait un satellite avec nous, un petit un dot watcher, quoi. Et du coup, quand on était en Namibie-Botswana, les téléphones, c'était off parce qu'on n'avait pas réussi à trouver de carte SIM locale, etc. Donc, elle n'a pas eu de nouvelles pendant genre 2 jours. Et elle n'en pouvait plus, qu'elle dit mais où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui va, pourquoi, etc. Moi, mes parents, ils paniquaient pas parce qu'ils voyaient que le radar bougeait, donc ils se sont dit, bah, ça va. Et puis mon papa, lui aussi, il voit toujours le scénario catastrophe. C'est toujours. Donc, genre, l'autre soir, là, quand on était en Italie, c'est que, enfin, Fribourg jusqu'en Italie, c'est super facile parce que c'est très plat et puis surtout c'est des pistes cyclables en fait, mais magnifique. Donc du coup on se dit on fait ça de nuit, il y a aucun risque quoi, franchement. Et ma mère elle dit à mon père, mais regarde sur la carte, c'est bon, c'est pas grave si c'est la nuit, c'est une piste cyclable. Et là mon père dit, oui mais ils sont près d'une rivière, ils pourraient tomber dans l'eau. Ma mère elle dit, non mais là franchement je vais me coucher, tu me fatigues quoi, tu vois, j'imagine le truc. Voilà, donc ouais, finalement mon papa et la maman de David, je pense que c'était le plus stressé. Ouais.
Les pauvres, quand même, tu te rends compte de ce que tu as fait subir à tes parents tout de même, alors que c'est quand même.
Ouais, non, c'est vrai que c'est dur. J'espère que mes enfants ne feront pas ça, mais je pense qu'ils le
feront.
Donc là,
du coup, vous rentrez, vous commencez par quoi ? Par reprendre le travail mardi, par vous remettre sur l'organisation de la ROC. Bravo pour ce nom d'ailleurs, hein, la ROC.
Ouais. Et, c'est pas comme ça que je voulais l'appeler au départ, mais on a des problèmes de comment dire, de comment ça, de trade name, si on prend Great Britain. Donc, du coup, c'est UK. Mais ROC, c'est bien, ça sonne.
Bah oui, ROC. Et est-ce que vous allez vous mettre en mode conception effrénée ou vous allez attendre un petit peu que tout revienne en ordre et que...
Je sais pas.
Alors, en même temps, je me demande pourquoi je pose cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de connaître ce planning à ce niveau-là, tu vois? Je suis pas complètement certain.
Non. Déjà, on a la maison à finir parce que notre maison, elle est en travaux. Parce qu'on se dit, ah, c'est super, on part 6 mois, on en profite, tu vois. On fait la maison. La maison, c'est vraiment le chantier, quoi. Donc, il y a ça à finir. Moi, ouais, forcément, on reste à Cross UK. Alors, je suis inscrite à la TCR parce qu'elle avait été reportée et que je ne me suis pas désinscrite. Et est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? Honnêtement, j'ai pas envie de la faire. Je vais être honnête, ça m'intéresse pas des masses, surtout qu'ils ont changé la route et la nouvelle route, bah, elle me plaît moins que celle qu'il y avait avant. Mais bon, je me désinscris pas pour l'instant, je verrai comment l'été se passe, et puis on verra quoi. Bah, voilà, c'est un peu le seul truc. Mais ouais, moi, pour moi, ça va être S à Cross UK. Je vais faire pas mal, il faut que je fasse pas mal de reconnaissance quand même de la route et tout pour être sûr que tout marche bien. Et puis il faut que je fasse un peu de la pub aussi parce que on a quelques inscrits, mais c'est pas énorme. Donc il faut motiver les gens et tout. Et puis, ouais, donc ça va être surtout ça pour moi. Et puis après, ouais, le boulot, parce que quand tu pars 6 mois, les gens, ils ont tendance un peu à t'oublier. Donc quand tu rentres, il faut un peu mettre les bouchées doubles pour leur montrer que tu as toujours envie de progresser. Quoi. Voilà, pour pas qu'ils t'oublient.
Il y a un truc qui m'impressionne quand même, c'est que là, tu reviens de 6 mois de voyage. Vous avez fait 29 000 km. Vous avez fait des étapes globalement toujours entre 180 et 220 km par jour. Ouais. Avec très peu de petites étapes de 70-80 km, très peu de jours de repos, ouais. Moult péripéties, des problèmes digestifs, des histoires de Covid, tout, enfin, vous avez tout vu, ouais. des amplitudes thermiques entre l'Afrique et le Portugal où d'un coup vous avez découvert les jambières.
Ouais.
Et hier, à Londres, vous avez quand même roulé encore pour faire un genre de petite sortie, un genre de tournée d'adieu, si on peut dire, pour que les gens viennent rouler avec vous.
Ouais.
Et dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu n'es pas saturé, que tu aimes toujours le vélo et que tu as toujours envie de rouler, de faire la course. En fait, je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus.
Ah, merci. Ouais, non, j'ai toujours envie. C'est pas... Je pense que peut-être la course, un peu moins, justement. C'est un peu pour ça que la TCR... Ça me dirait bien, à la limite, si je devais faire une course, je me dis, une course de 1000 bornes, c'est peut-être plus tentant à ce moment-là, parce que j'ai quand même bien borné, là, tu vois. Donc, un truc de 1000 bornes où t'as presque pas besoin de dormir et qui est un peu plus rapide, tu peux faire ça sur 3 jours. Je préfère, parce que là, en fait, le problème d'une course comme la TCR, c'est qu'il me faudrait, genre, faut que je prenne 2 semaines de congé. J'ai très peu de congé. Et honnêtement, les congés que j'ai, si j'en ai, je préfère les passer, aller voir ma famille, quoi, parce que je ne les ai pas vus depuis l'été. Et puis aussi, ben, m'occuper de ma maison, m'occuper de mon mari, voilà, quoi. Voilà. Après, ouais, donc j'ai peut-être un peu moins l'envie de la course. Par contre, l'envie de voyage, mais toujours, quoi, mais à fond. J'ai encore plein d'autres voyages et plein de projets vélo que j'ai envie de faire. Et ouais, le vélo, mais j'adore le vélo sous toutes ses formes, quoi. Donc, ça s'arrêtera pas, ça, c'est sûr. Tu m'entends toujours?
Donc, avant que nous ne soyons coupés, je t'exprimais ma vive admiration sur ta passion toujours vive, et tu me racontais que justement tu n'as pas trop envie d'aller à la TCR, ce que je peux parfaitement comprendre après que tu aies vécu tout cela. Ça paraît un petit peu fade, quand même. C'est
C'est un
surtout le
petit peu
parcours en fait qui te.
alors le parcours m'intéresse moins. J'ai aussi, ben, comme j'ai dit, j'ai très peu de vacances qui me restent. Donc c'est vrai que si j'ai quelques jours de vacances, j'aimerais bien les passer avec ma famille plutôt que d'aller parcourir 4000 bornes. Et ensuite, oui, si je fais des courses, peut-être quelque chose de plus court cette fois-ci, à la limite du 1000 km, où je pense que j'ai plus l'avantage de déjà de prendre du plaisir et puis même peut-être de faire un podium à la limite, que la TCR, c'est tellement aléatoire. Enfin, je veux dire, par podium, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi l'intérêt de faire une course? Maintenant que j'ai fait plus de bikepacking, c'est quoi l'intérêt de faire une course au final si tu fais pas un podium? Parce que finalement, si tu veux t'en prendre plein la tronche et faire des grosses kilomètres, t'as pas besoin de faire une course. Tu peux faire ça gratuitement. Tu peux faire ça tout seul. Tu l'organises, ton truc, tu vois. Donc, voilà. Non, après, oui, tu me disais l'envie. L'envie, par contre, elle est toujours là. Je veux dire, je suis allée rouler aujourd'hui. Pas longtemps, hein. C'est de la recovery. J'ai fait du genre un 30 km à 19 km heure. C'est très zen. Mais l'envie, elle est toujours là. Moi, je suis bien sur le vélo. J'ai envie de voir d'autres pays. J'ai envie de voir l'Asie qu'on n'a pas pu faire à cause de la Covid. Donc, ouais, j'ai encore plein d'autres projets, quoi.
On reviendra sur tout ce chapitre course parce que justement tu es co-organisatrice de la Race Across
Tout à
UK.
fait.
Est-ce que, bon là vous avez vu le continent nord-américain, l'Amérique du Sud, une partie, enfin une minuscule partie de l'Amérique du Sud, plein d'autres parties du monde. Est-ce qu'il malgré tout il y a une frustration de pays où tu es passé et t'en avais pas spécialement envie, ou au contraire de toute une zone du monde que vous avez été obligé de d'évincer? Pour des raisons de Guinness ou de Covid. Est-ce qu'il malgré tout, est-ce que c'est tout 100% positif ou est-ce qu'il reste une petite pointe de ah, j'aurais bien aimé passer dans ce pays quand même?
Ouais,
En Afghanistan, par exemple.
bah oui, moi la Pamir Highway, c'était quelque chose que j'avais envie de voir. Tous les stands en général, mais c'est pas grave, hein. Je ferai ça dans un voyage prochain, donc c'est pas la fin du monde. David, lui, ça l'intéresse pas du tout, la Chine et l'Inde et tout. Mais alors, il a dit, moi, franchement, il faudrait me payer pour y aller. Je sais pas pourquoi, mais ça l'intéresse pas. J'adorais faire le Japon aussi. Voilà, tous ces pays-là, on pouvait pas y aller. Bah parce que voilà, la Covid, ça n'a pas été possible. Le seul qui a fini par s'ouvrir et on aurait pu aller finalement, c'était l'Inde à la fin, mais on n'avait plus le temps parce qu'en fait, ils sont ouverts, puis ils se sont refermés, puis ils se sont réouverts. Bref. Donc voilà. Et après, les autres petits pays d'Asie, soit il n'y a pas assez de kilomètres à faire pour un petit pays, soit il y avait encore de la quarantaine. Donc c'est ouvert, mais il faut genre faire 2, 3, 4, 5, parfois 2 semaines de quarantaine et on n'a pas le temps, quoi. Donc ouais, il y a des petites frustrations. Mais je vais te dire un truc, et ça va peut-être un peu paraître un peu bêta, mais j'ai aucun regret en fait. Parce que finalement, tu vois, si on avait fait le voyage absolument parfait, où tout s'était bien passé, où on avait vraiment vu tout ce qu'on voulait voir, où ben, on reviendrait, déjà on serait super déprimés, parce qu'on se dirait, oh mon Dieu, mais voilà, j'ai accompli ce que je voulais faire dans la vie, mais maintenant je fais quoi? La vie est vide. Et ensuite, voilà, on n'aurait pas l'envie, ben, d'autres choses, quoi, et de futures aventures et d'autres trucs à faire. Donc, au contraire, je suis assez, assez contente et je suis aussi super contente qu'on ait une route qui
Oh là
finalement
là
nous ait
là
bien
là là.
punis parce qu'on s'en est pris quand même plein la tête. Je t'entends dire, oh là là, tu m'entends?
Tu vois, comme quoi, tout simplement, la chambre de beau-papa, ça ne suffit, le bureau de beau-papa ne suffisait pas.
Voilà, ouais.
Donc voilà. Ben moi, je suis sur la terrasse, donc coup de bol. Aujourd'hui, il fait beau parce que
Ouais.
les enfants dorment, donc je peux pas aller dans le salon ou dans la salle de jeu comme habituellement. Mais là, sur la terrasse, avec la torche de mon téléphone, allumée face à moi pour que
Ça, t'as
j'ai
pas
ça.
trop froid, j'espère.
Non, ça va. Puis c'est un juste retour de karma parce que l'année dernière, si tu te souviens, j'avais fait un épisode avec un franco-anglais émigré aux États-Unis et on avait fait l'épisode. Lui, il était au-dessus de Boulder, il faisait super froid, il avait gelé pendant 2 heures pendant l'épisode. Ouais. Donc, Joe Grant, voilà, j'avais oublié son nom.
C'est un peu violent cette lumière, mais bon, d'accord. On fait ça comme ça, et puis c'est tout. Voilà, c'est bon. Tant pis, il y aura un peu de lumière à l'arrière, mais c'est pas très grave.
Eh ben, c'est pas grave du tout. Bon, ouais. Du coup, maintenant qu'on a changé d'endroit et que l'on a chacun une connexion un petit peu meilleure, mais ça, ce sont les aléas, est-ce que tu peux reprendre justement ce que tu disais sur le côté on est parti, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir, mais finalement, c'est mieux, finalement.
Ouais, donc en fait, on est parti, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir, et c'est mieux, pourquoi ? Parce que si ça avait été parfait, on reviendrait en se disant c'était le voyage parfait, c'était vraiment l'aventure comme on la voulait, et maintenant tout est fini. Et je pense qu'il y aurait vraiment un contre-coup plus important, alors qu'on a quand même énormément souffert pendant ce voyage, on a eu plein de stress et tout, et finalement, ça nous a bien laissé connecter à la réalité. Et ensuite, ouais, la deuxième chose, c'est que ben, finalement, on n'a pas tout vu, mais c'est tant mieux, parce que ça nous donne l'envie de faire autre chose par la suite. Et puis après, je suis quand même contente de ce qu'on a réussi à faire, parce que quand on est parti, c'était pas du tout sûr qu'on puisse continuer. Dans la mesure où je pense que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié à quel point toute la période de la Covid, c'était juste nul, quoi, et qu'on pouvait vraiment rien faire. Nous, on est quand même parti au Canada. À ce moment-là, les Européens pouvaient toujours pas rentrer aux États-Unis. Et en fait, on a utilisé la période dans laquelle on était au Canada pour faire notre quarantaine, en fait, pour pouvoir après rentrer aux États-Unis. On a dû prendre un vol, je veux dire, de Vancouver jusqu'à Seattle. Tu peux carrément voir la ville, quoi, depuis la frontière. On pouvait pas y aller à vélo. L'Australie, ça a ouvert, mais on avait déjà réservé nos billets retour vers l'Europe. On s'était dit, tant pis, on pourra pas faire l'Australie. Ce qui, au niveau du record, ça voulait dire qu'on pourrait, ça aurait été difficile de faire un record sans l'Australie. On s'était fait une raison, et là, bam, l'Australie réouvre. Et après, l'Australie, elle réouvre, mais juste une partie de l'Australie. Puis après, finalement, toute l'Australie réouvre. Donc, ça nous a pris 4 jours de voyage, hein, pour faire ça. Donc, je suis quand même super contente, parce que dans l'absolu, le seul endroit où on n'a pas pu aller finalement, c'était l'Inde, qu'on avait prévu de faire au départ. Donc on n'a pas tout vu, mais je suis déjà super contente qu'on ait pu voir ce qu'on a pu voir dans un contexte de Covid. Quoi. Ouais.
Là, tu parlais de l'Australie, j'ai eu l'impression que l'Australie, ça a été un petit peu la partie douloureuse, entre guillemets, où c'était le dernier mois, il y avait vraiment une longue partie à faire. Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as dit, là, on attaque l'Australie, il reste 5 semaines, on a 5000 kilomètres à faire en 4 semaines. Et j'ai l'impression que ça a été la partie un petit peu contre la montre du voyage.
Ça a été très contre la montre. Et ça, c'est à cause de David, parce qu'il ne m'a pas écouté dès le départ. Il fallait faire plus de kilomètres au départ pour pas avoir à faire un contre la montre à la fin. Ouais, c'était un vrai contre la montre. On a pris 0 journée de repos. Les seules journées un peu courtes qu'on a faites, c'est parce que il y a eu de peur, parce qu'on est parti le midi, parce que on est arrivé la veille et tout, donc le temps d'acheter la nourriture, etc. Et après, on a eu une autre journée qui était un peu plus courte, qui était à Adélaïde. Parce qu'on a rencontré en fait un chirurgien qui est le papa d'un ami de David, etc. C'est un peu une connexion de travail. Donc David, il a continué un peu à faire ses relations au niveau du boulot pendant notre séjour. Donc voilà. Mais sinon, c'était du non-stop l'Australie. Donc ça a été, j'étais assez contente. Là, tu vois, l'Australie, je me suis dit c'est bon, je suis fière de nous, on a bien bossé. Pareil pour la dernière semaine là qu'on s'est fait en Europe, de Calais jusqu'à Venise. C'était des distances dans lesquelles je me suis dit ça va, je pense pas que j'ai plus en moi à la fin de la journée, quoi. Je me suis bien donné, donc j'étais contente.
En Australie, j'ai apprécié la partie Sydney, parce que je me suis dit tiens, ça y est, elle se la joue monde de Nemo et tout, elle revient, on aurait dit le moment où Nemo revient en Australie, enfin le papa de Nemo arrive à Sydney pour retrouver Nemo. J'ai trouvé ça assez cool.
Quand même. C'est marrant, j'ai beaucoup pensé moi aussi à Nemo. C'est quand même triste quand même. Je suis en Australie, les trucs auxquels je pense c'est Disney, quoi. Mais j'ai pas mal pensé.
Ouais, mais bon, t'as quand même vu pas mal de kangourous, donc ça c'est une chance en Australie.
Ouais, j'en ai vu des pas mal. J'en ai beaucoup. Ouais. On n'a pas vu de koala. C'est une grosse déception. On a vu d'autres trucs la nuit, mais pas de koala malheureusement.
Il me semble qu'il y a plein d'animaux bizarres la nuit quand même. Il fait pas bon traîner la nuit en Australie, je crois.
Les gens nous avaient vachement mis en alerte au niveau des araignées, des serpents et tout. On a vu quelques serpents. Le plus gros qu'on a vu de serpent, c'était au Texas. Il était énorme. Et aussi un autre en Afrique qui, lui, était très dangereux. C'était un boomslang. C'est un des serpents les plus dangereux qu'il y ait. En Australie, on en a vu. Pas des masses. La nuit, ouais, moi j'aimais bien la nuit parce qu'en fait c'est top parce qu'avec la, on a la lampe torche au niveau du casque et en fait tu repères vachement bien les animaux parce qu'ils ont les yeux qui brillent.
Bah oui.
Donc du coup, je regardais vachement dans les arbres et tout. Et ouais, on en a vu des pas mal, mais il n'y avait aucun qui était dangereux. Hein. Je veux dire, de toute façon, après avoir fait l'Afrique, franchement, l'Australie, les animaux australiens, ils me faisaient pas trop peur. Il n'y a pas de lion et il n'y a pas d'éléphant. Donc déjà, c'est tranquille. Ouais, c'est magnifique, c'est les oiseaux en Australie. Mais il ne faut pas me lancer sur les animaux, hein, parce que comme je t'ai dit, moi je suis docteur Doolittle, donc je peux en parler pendant des heures.
Bon, alors ouais, on va parler des automobilistes australiens alors.
Oh, ouais. Non, mais non, là c'est bien, je peux faire une liste des pires automobilistes du monde et les meilleurs. Ça, très facilement, ouais. Les Australiens et les Américains, ce sont les pires, ça c'est sûr. L'américain est très bizarre. L'américain, c'est un peu du bipolaire. C'est-à-dire qu'avec un américain, tu sais pas si on va te lancer une brique ou t'offrir une bière. C'est un peu l'ambiance. Et l'australien, faut savoir que l'australien, il a pas sa langue dans sa poche et c'est un peu un anglais sous stéroïde, en fait, l'australien. C'est-à-dire qu'il va vraiment dire ce qu'il pense. Et que, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de, pas autour d'Adélaïde, mais partout ailleurs. On dirait que voilà, le cycliste est un ennemi, quoi. Je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que parfois, tu fais du vélo tranquille et puis t'as un mec qui passe et qui te jette un truc ou qui te donne, fait un doigt d'honneur. Tu sais. Ok, sympa, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, c'est particulier. Il y a eu ça aussi un peu aux États-Unis où ils te font du coil rolling, là, où ils te font passe le pot d'échappement et tout. Et il y a une route aussi dans l'Utah. Et, tu verras si tu regardes toutes les sorties que j'ai fait. Il y en a une qui était courte, c'était que 150 km parce qu'en fait, c'était une route toute droite. Et les mecs, c'est une route toute droite, quoi. T'as plein de place pour passer et pour laisser de la place aux cyclistes et ils le font pas. Et je pense que c'est par méchanceté ou par je sais pas. Mais j'ai tellement eu peur, je me suis mis à pleurer. Je suis sortie de mon vélo, je dis moi j'arrête, je peux plus. Je suis dégoûtée par l'humanité, quoi. Voilà. Alors que tu vas en Espagne, les Espagnols, mais quelle merveille les Espagnols. Qu'est-ce que le gouvernement espagnol a fait pour que les Espagnols soient aussi gentils avec les cyclistes, quoi. Il ne faut pas me dire, oh, c'est parce que c'est un pays de vélo, parce que, je suis désolée, la France ou la Belgique, c'est aussi des pays de vélo, et on s'est quand même fait pourrir par certaines personnes. Donc, il y a quelque chose en Espagne qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont vraiment gentils, les Espagnols.
Les Espagnols sont vraiment très, très gentils.
Pas les flics. Les flics espagnols, c'était pas sympa du tout, parce que la Guardia Civil, ils nous ont donné une amende parce qu'on avait les écouteurs dans les oreilles. Alors qu'on leur a dit, franchement, nous, on vient d'Angleterre, c'est pas une loi. Et ils nous sortent, oui, c'est une loi européenne. Alors, ce n'est pas vrai, j'ai fait mes recherches. Il n'y a que l'Espagne et la France vous êtes interdits. Donc, il ne faut pas nous sortir que c'est une loi européenne. J'ai dit, mais c'est bon, quoi. J'ai dit, on a fait le tour du monde, on est vraiment désolé, il n'y a personne sur la route. J'ai écouté ton podcast en plus dans une oreille, ça va, quoi.
Je suis désolé.
C'est de ta faute. Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Pas de négociation. Non.
Très. Bon, du coup, la liste des trucs beaucoup moins drôles parce que on voit, on en rigole, on voit les trucs un petit peu les désagréments, le mal au ventre, les insultes d'automobilistes. Mais là, tu m'as dit à l'instant que tu as pleuré, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments franchement durs où tu t'es dit putain, qu'est-ce que je fous là?
Ouais, on en a eu des pas mal parce que, alors, un des trucs principaux, ça a été le vent de face. On sait faire si tu vent de face, mais on a eu qu'une journée vraiment où il y a eu du vent dans le dos qui nous a aidé. C'était au Texas où là on a fait une journée à 34 km/h moyenne, c'était top. Mais sinon, je te jure, tout le temps du vent de face. Je me souviens même quand on était au Canada, on avait du vent de face quand on a commencé et David me disait, tu verras, une fois qu'on arrive à Coos Bay, parce que si on avait l'app Windy App, une fois qu'on arrive à Coos Bay dans l'Oregon, le vent tourne et là on aura un vent dans le dos, ça va être trop bien et tout. Et là, qu'est-ce qu'on se farcit? On se farcit une tempête, vent de face, et après, mais un déluge en Californie où il y avait eu, genre, ils avaient une sécheresse depuis 6 mois, et là, on se tape le déluge, quoi. J'ai dit, non, mais franchement, je comprends pas, quoi. Donc ça a été des moments, le vent de face, c'était vraiment dur, quoi. Parfois, la nuit, là même, il y a quelques jours, on était en Italie, on s'est dit, la nuit, il y aura pas de vent de face, donc on essaie de rouler plus de nuit. Un vent, mais a décorné les bœufs, quoi. Je comprends pas. Jusqu'au bout, même hier à Londres, on a eu du vent de face. C'est vraiment un truc extraordinaire. Donc là, c'était des moments difficiles. Et puis après, ouais, on a eu quand même des moments de stress, à cause de la Covid, quoi. Quand Omicron a commencé, c'était quand même pas fun. Quand l'Australie était toujours encore fermée, ça aussi, ça a été dur. Et puis après, tu vois, moi j'ai essayé de partager quand même l'aventure en ligne, ce qui était chouette, mais parfois je me suis pris un peu des commentaires aussi, genre quand on était allé en Afrique par des mecs en ligne en disant, ouais, franchement, vous devriez avoir honte avec la Covid de faire ça, c'est pas le bon exemple et tout. Je dis, mais attends, t'es qui déjà? Et puis de deux, je m'en fous. Bref, donc ça me fait plaisir qu'au final, je pense qu'on ait fait la bonne chose, parce que ça ne servait à rien de condamner des pays qui avaient été ouverts sur ce qui se passait chez eux. Mais bref. Bref, ouais. Donc il y a eu des moments un peu difficiles et un peu moins fun. J'ai aussi été mal en Afrique quand même. Ça n'a pas été fun non plus. Mais bon, voilà.
Ah, mais c'est pour ça que tu as épousé David.
Parce que non, mais tu parles. Lui, quand je suis malade, il s'en fout. Hein. C'est pas un vrai médecin. Hein. C'est un chirurgien ortho. Hein. Donc lui, tout ce qui
Ouais,
l'intéresse,
c'est un dentiste en fait.
est-ce que tu t'es cassé un os? Non, bon ben voilà. Non, il est pas très. Quand j'étais malade en Afrique, il est pas du tout inquiet, David. Moi, j'avais des allergies horribles, je perdais mes ongles et tout, à cause de mes trucs malaria. J'ai fait, mais tu es sûr que c'est pas un problème? Et puis il fait, mais non, c'est bon, t'inquiète pas et tout. Ouais. J'ai eu
Non,
une
mais de toute façon,
bronchite horrible quand j'étais en Australie. Et la nuit, presque, il me faisait dormir dehors parce que j'arrêtais pas de tousser, ça le gonflait. Il m'a dit, ah, mais je peux pas dormir, merde, arrête de tousser. Je dis, mais je fais pas exprès, quoi, je suis malade. Bref.
Et pendant ce temps-là, au début en Afrique, quand vous avez eu des pluies diluviennes et qu'il y avait des grandes flaques d'eau à traverser, toi tu mettais sur Instagram, et quand je pense que je vais devoir faire passer un gentleman anglais dans ce truc-là, et que
Ouais.
lui il te laissait dormir dehors. Non mais vraiment.
Franchement, hein, terrible. Ouais.
Façon, je te le dis depuis le début que c'est pas un vrai médecin. Je l'ai.
Mais ça, je pense que c'est tout de la blague. Les Anglais, c'est pas des vrais médecins, de toute façon. C'est connu, hein, la médecine en Angleterre, c'est la cata. Non.
Bon, si on parlait de la Race Across UK, qu'est-ce qui t'a pris, en plus de toutes tes activités, de t'emmancher dans la co-organisation d'une épreuve?
Ben, en fait, c'est une idée qui m'est venue. J'ai pensé énormément à organiser une course et tout. Et je me souviens, j'étais dans un avion en revenant d'Italie et je me suis dit, mais il n'y a pas de bonne course en Angleterre qui couvre tous les trois pays et où vraiment il y a un vrai support. Parce que, notamment avec ce qui s'est passé avec la TCR, les races ultra, très souvent, tu paies quand même, pas toutes, hein, il y a des super courses où ça, c'est pas le cas, mais tu paies parfois quand même un certain montant pour les mecs qui disent, voilà, tu as des checkpoints, mais tu n'as rien au checkpoint et tu fais ta map tout seul, quoi. C'est pourquoi je paye 300 balles pour ça? Je comprends pas, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, moi, je voudrais organiser une course qui soit super bien faite, super bien organisée, où il y a des bons checkpoints et où quand tu arrives au checkpoint, bah, il y a une équipe, il y a quelqu'un, il y a une organisation, quoi. Alors, la Race Across France, c'est un bon exemple, ils font un super travail sur ça. Et puis, moi, j'avais une très bonne expérience quand j'ai fait la course. J'ai dit, bah, je voudrais faire quelque chose de similaire. Donc, j'ai contacté Arnaud. Et Arnaud a dit, ouais, moi, ça me branche à fond, on fait ça. Et du coup, bah, ça a été top parce que moi, sachant que j'allais partir, j'aurais pas pu organiser et avoir bah, le support logistique et tout pour lancer quelque chose comme ça en Angleterre. Donc, ils ont commencé à lancer la course pendant que j'étais à l'étranger. Et là, maintenant, bah, je reviens et je vais essayer de faire surtout le support bah, local, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un sur place maintenant qui connecte avec les différentes villes et surtout qui ramène un petit peu la communauté, qui fasse un peu de la pub, qui voilà. Et moi, je suis super contente de faire ça. Ça, je suis très excitée à l'idée. J'ai hâte d'être. Je suis plus ou moins directeur de course, donc voilà. Ça va me faire plaisir de voir d'autres personnes souffrir. Non, mais après moi, c'est parce que franchement, la Race Across France, moi, ça avait été quelque chose qui m'avait vraiment ouvert le monde de l'ultra, et j'espère que je pourrais faire la même chose pour d'autres personnes. En fait. Ouais, ça sera top.
Donc tu ne vas pas courir en fait.
Ah non, moi je cours pas. Non, je cours pas. Moi j'organise. J'organise et je soutiens et je fais des distributions d'Haribo. Comme ça, voilà.
Voilà, tu regardes les autres passer et puis voilà, tu vas
Je
clapper
vais
dans les
faire du
mains.
dot watching, je vais passer prendre la voiture et tout. Je vais m'assurer que tout le monde va bien. Voilà, ça va être. C'est un petit peu ça mon délire. Et j'ai aussi une autre idée pour faire une course gravel, mais pas une vraie course. Un truc pour le fun. Un truc. Genre, tu viens gratuit et le prix c'est une idée pour Halloween en fait. C'est plus une blague qu'autre chose, mais j'ai envie de la sortir. Ça, là, je pense que ça sera assez sympa.
Ah bah ça
Ouais.
va, ça te laisse le temps de l'organiser, ça me laisse le temps de m'organiser pour venir la faire alors.
Mais là, je te préviens, faut se déguiser. Hein. C'est pas
Non
être
mais moi c'est
sérieux.
naturel, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts.
Ouais, c'est bon.
Tout va bien. Tout va bien, tout va bien.
Cool.
Euh, Tout à l'heure, tu me disais, quand on a été coupé, c'est plutôt cool que tu m'interviewes parce que bah, t'es un des rares à avoir eu envie de faire un épisode avec moi. Mmh. Alors, je sais pas si, si je dois vraiment prendre ça comme un compliment, parce que ça me ferait passer pour une sorte de génie visionnaire. J'adore l'idée, hein, rassure-toi. Ouais. Mais par contre, ça veut aussi dire que peut-être vous n'avez pas soulevé autant d'enthousiasme que prévu alors que vous étiez censé lever des fonds pour une cause noble.
Mmh. Je pense qu'on a, on a levé un, de l'enthousiasme auprès d'une petite communauté de gens qui nous suivaient et tout. Après, ouais, ben, tu sais, c'est normal. David et moi, on est partis sur ce truc, c'était la période Covid. Donc déjà, on ne voulait pas faire trop de bruit parce qu'on ne savait pas vraiment où est-ce que ça allait aller, est-ce qu'on allait pouvoir finir et tout. Donc au départ, déjà, on était assez discrets. Ensuite, si tu veux vraiment avoir de la pub, faire un truc bien et tout, il y a les mecs comme Marc Beaumont, ils préparent ça 4 ans en avance, quoi. Ils ont une équipe de presse et tout... Donc là, ça les intéresse forcément. Après, nous, on s'était dit, ouais, c'est une good news story, donc peut-être que quelques journalistes seraient intéressés. On a été interviewés hein, par deux journalistes. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'article qui soit sorti. J'ai dit à David, peut-être qu'ils ont changé d'avis après nous avoir rencontrés. Je ne sais pas.
Peut-être.
mais après, franchement, tu sais, ce genre de truc, il y en a tellement maintenant qu'ils l'ont fait. Je veux dire, c'est cool, hein, mais... les mecs, ils vont dire, mais on s'en fout, quoi. On en a vu déjà, à moins que vous ayez fait ça, genre en 50 jours, comme tes gros marteaux. Voilà, donc, ouais, c'est super. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, c'est super. Sinon, non, bah, nous, on aime bien partager notre histoire quand on nous le demande, quoi. Voilà. De toute façon, l'idée, c'est, comme j'ai dit, on n'est pas du full-time. Si j'étais, genre, influenceur full-time, etc., ça m'embêterait, mais honnêtement, si ça intéresse, tant mieux. Si ça intéresse pas, j'ai pas fait ça pour les autres, quoi. Donc, voilà.
Bon, et puis si tu veux apprendre, prendre des bonnes leçons de comment faire du bruit autour de quelque chose, tu peux toujours demander conseil à Arnaud. Il est de bons conseils pour ça.
Ah, ça, ouais. Ça, il sait faire du buzz.
Ah, ça. Ça, quand il faut aller faire un tour de vélo dans la neige, il est balèze hein, pour en faire des tonnes.
Ah, ça aurait été cool d'avoir une équipe qui nous filme et tout, ça aurait été quand même, ça aurait fait des images. Alors c'est trop drôle parce que moi j'ai Villiers qui est notre sponsor, mais il me sort des trucs, oui, assure-toi de faire des prises de vue et tout. J'ai dit non mais mon grand, c'est que déjà moi je suis nulle avec une caméra et de deux je fais tout sur du téléphone. T'as pas le temps, au départ on était parti avec le drone et l'ordinateur, mais on s'est tout de suite rendu compte mais de l'idée débile que c'était parce que t'as juste pas le temps le soir de te poser, de faire des jolies images sur ton ordi. Quoi. C'est juste, David, on était complètement dans l'illusion. David, il était parti, il avait la petite boombox, le petit Kindle et tout. Et tu parles, au bout de deux semaines, on est au Canada, on a renvoyé la moitié du truc. Il a dit, bon, c'est clair, ça va pas du tout être l'ambiance. Quoi.
Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, vous aviez le drone et je trouvais les plans vraiment beaux. Bon, ouais. Des fois, ça manquait un peu de variété parce que c'était juste avec le tracking au-dessus de vous.
C'est le truc que je sais faire.
Ben oui, mais n'empêche que c'est quand même super et moi j'ai vraiment apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié aussi vos plans autour de Monument de Vallée. J'ai trouvé ça très très beau. Mais par contre, tu pointes du doigt discrètement, c'est que quand on voit de belles images de défis dans votre genre, et ben c'est peut-être qu'il n'y a pas autant de kilomètres et il n'y a peut-être pas autant d'aventures que racontées et qu'il y a peut-être plus de storytelling que de pédalage quand même dans le truc. Parce que quand on le fait à fond comme vous, il n'y a pas le temps, en fait.
Il n'y a pas le temps, à moins d'avoir une équipe qui soit tout le temps là. Et même, ça enlève un petit peu. Parce que, par exemple, tu vois, hier, quand on a fait le finish à Londres, avant d'arriver à l'hôpital, on a dû attendre, on a dû s'arrêter pour que le type me dise, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce qu'on voulait avoir quelqu'un qui photographie notre arrivée avec notre famille, parce que c'était important pour nous. Mais du coup, tu vois, c'est ça la réalité derrière. C'est que c'est des trucs, c'est presque planifié, quoi. C'est pas une mise en scène, mais c'est planifié. Il nous a dit, vous m'attendez à dans cette rue-là, et quand je suis vraiment installée, vous venez, tu vois. Donc, du coup, t'as l'air un peu couillon, toi, t'attends. Et là, il dit, tu peux y aller. Et puis, c'est pareil, quand on était dans un endroit qui est magnifique, qui était l'avenue avec les grands arbres, tu sais, en Californie, on est passé, il y avait une cycliste qui posait avec son vélo, et il y avait son mari ou un photographe, je sais pas, il avait un équipement, et nous, on s'était arrêté pour bouffer un sandwich, et on l'a regardé. Et ils ont dû passer, c'était vraiment la lumière et tout, ils attendaient, ils ont dû passer mais 2 heures à faire des photos, quoi. T'as pas le temps de faire ça. Alors c'est super parce que le résultat à la fin, mais c'est fantastique. Mais c'est, ouais, c'est un métier, quoi. Faut faire ça full time. Mais c'est complètement différent. Ouais, c'est pas du tout la même ambiance.
Ah ben, influenceuse vélo, les filles, elles pédalent pas beaucoup quand même. Hein.
Ouais, ouais. Ça dépend. Après, il y en a qui vont faire ça plus full time.
Il y a des exceptions, bien entendu.
Elles vont soulever un peu plus d'intérêt Et du coup, elle va avoir des gens qui les filment ou des trucs. Moi, je vois maintenant Nathalie, elle a quitté son job, elle commence à faire ça un peu plus full-time, tu vois, elle a Asos qui la filme ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est différent. Mais même elle, j'imagine que maintenant, bah, comme elle va avoir des contrats, elle va devoir parfois se farcir des sorties plus courtes qu'elle a peut-être pas envie de faire, mais parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses quand tu as des sponsors. Ce qui était un peu, nous, notre problème aussi, parce que les sponsors, c'est super, mais du coup, quand tu as Villiers qui t'écrit, qui t'envoie un texto fâché, hein, c'est sûr, à Seattle fâché. En disant « Ouais, vous avez utilisé des bike box en carton specialized, vous n'êtes pas censé montrer d'autres marques et tout. » J'ai dit « Attends, mon grand... Je t'explique, on prend les bike box qu'on trouve, quoi. Donc, va pas te plaindre. Si tu veux notre bike box, t'as qu'à nous en envoyer, quoi. Donc, c'était un peu. C'est le problème des sponsors, tu vois. Ça crée toujours des obligations. Ouais.
Alors, tiens, en parlant de ton vélo, j'ai remarqué un truc. C'est peut-être qu'une impression, et j'ai eu l'impression que ton guidon, ou en tout cas tes poignées de frein, ont eu tendance à remonter au fil du voyage.
Ils sont à nouveau normaux maintenant. Mais en fait, après avoir échangé ma potence avec David, moi aussi, j'ai commencé à avoir mal aux mains. Alors qu'au début, j'ai jamais mal aux mains. Moi, j'ai une bonne géométrie, c'est pas un problème. Une fois que je suis revenue sur mon ancienne potence, j'avais toujours le même problème, donc j'ai le damage was done, quoi. Donc du coup, j'ai vachement remonté pour me faire un truc un peu plus courte. Et puis finalement, c'est quand j'ai fait ma deuxième révision de vélo chez Paradise Cycle, qui sont mes mécaniciens à Londres, là, ils m'ont remis une autre potence encore plus courte. Et à ce moment-là, ça allait mieux, donc j'ai plus besoin de faire ça. Mais ouais, j'avais dû faire ça pour m'aider un petit peu au niveau des doigts, parce que je commençais à avoir la pince qui marchait plus très bien. Ouais.
Bon, là, tu reprends le travail mardi. Mmh. Est-ce que tu es prête aux questions de tes collègues du style « Alors, c'était comment ?»
Ouais, de toute façon, moi, mon angoisse, c'est de devenir quelqu'un de gonflant. C'est-à-dire, tu sais, les gens qui ont fait une aventure et qui ne parlent que de ça. Tu sais, où il y a plus d'aventures. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça plein de fois. Genre, quand j'avais fait le Tour de France avec les filles, ou quand j'ai fait la Race à Cross France, David, à chaque fois, il me sort « Ah, t'as fait la Race à Cross France ?» C'est bizarre, t'en parles jamais, tu vois. Donc, faut faire gaffe à ça. Donc, c'est bien qu'on ait fait ça à deux, parce qu'on pourra se gonfler mutuellement et pas trop parler aux autres. Si mes collègues de travail me demandent, je suis plus que contente de leur en parler. Sinon, je pense que j'en parlerai pas. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, ils comprendront pas. J'ai quand même eu un collègue qui m'a dit, ah, mais c'est bien, t'as eu 6 mois de vacances, tu dois être en pleine forme et tout. J'ai fait, non, mais tu comprends pas, c'est le bureau, ça va être des vacances en comparaison de ce que je me suis partie. C'était fantastique, hein, mais c'était fatigant, quoi, physiquement, mentalement et tout.
Ouais. Tu finis un petit peu épuisé quand même. On le disait tout à l'heure, l'Australie t'a cramé quand même. Tout à l'heure, on en rigolait avec les boutons et tout avant qu'on enregistre. Ouais. Tous les trucs que t'as sur le visage, les boutons, les taches, les plaques, les machins. Il y a une petite partie de fatigue aussi et d'épuisement quand même.
Ah mais oui, je pense aussi. Et puis quand on a dû prendre notre jour de congé forcé. Je sais pas ce que j'ai eu, hein, mais j'ai craqué physiquement, mentalement. J'arrivais plus, j'ai eu de la fièvre. Je sais pas du tout ce que j'ai eu. Mais oui, je pense que c'était plus de la fatigue. En fait, je pense que c'était le corps qui disait non, quoi. On s'arrête. Enfin, il faut une journée off. Ouais. Et là, l'Australie, on a quand même enchaîné parce qu'on a fait Australie, prends l'avion, va à Honolulu, fais ton point antipodal à Honolulu, envole-toi jusqu'à Calais et avec tout le décalage horaire. Et là, Calais-Venise, on a fait quand même genre 1500 bornes, je sais pas quoi, en 5 jours, un peu plus même 1900, je crois, tout ça. Bref, ça a été costaud en se tapant les Ardennes au milieu aussi. C'était sympa. Donc ouais, c'est physiquement, on est un peu rétamé. Ouais.
Tu réalises que tu as enchaîné Honolulu-Calais quand même?
C'est un truc particulier. J'ai fait, on a fait Honolulu-Londres, Douvres-Calais, ouais. Tu nous aurais vu dans le bateau pour Douvres à Calais, mais on était en mode gros clochard. Quand il y avait une espèce de vieux canapé, on a pris le canapé à deux et on s'est endormi dessus, mais comme le monde autour de nous a disparu, quoi. En 5 minutes, on était endormi comme ça. Les gens, ils doivent nous voir en mode oh, qu'est-ce que c'est ces gens, quoi.
S'ils savaient. Est-ce que tu t'étais dit un jour, une fois dans ma vie, je mettrais dans la même phrase Honolulu et Calais?
Non, franchement,
pas facile, hein.
C'est quand même particulier. On a fait des transitions un peu bizarres, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a été très particulier. Alors, je vais profiter aussi, expliquer aux gens qu'on allait à l'ONU pour faire les points antipodaux, ils comprenaient pas, quoi.
Moi, j'ai pas compris. Je fais partie des imbéciles qui comprennent pas quand tu parles. Donc, c'est quoi?
Alors, en fait, pour faire un tour du monde, il faut que tu passes par deux points antipodaux, c'est-à-dire au pôle opposé.
D'accord.
Le problème, c'est que tu as l'océan Pacifique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux faire ça. La plupart des gens vont en Nouvelle-Zélande parce que Auckland et Madrid, je crois que c'est à peu près à 900 km près, c'est considéré comme les points antipodaux. Et du coup, la Nouvelle-Zélande, comme ils étaient en mode zéro Covid, on ferme tout, c'est pas possible d'y aller. Même à l'heure actuelle, c'est pas possible. Je crois qu'ils vont commencer à rouvrir en mai, mais voilà. Donc, du coup, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. Alors, il y aurait peut-être eu des options, genre, au fin fond nord de l'Arctique et tout, mais c'est no way, quoi. Nous, on était là, c'est pas possible, on n'a ni les moyens financiers, ni ce que tu veux pour faire ça. Et du coup, David dit, ouais, mais ce qui est embêtant, c'est l'océan Pacifique. J'ai dit, attends, dans l'océan Pacifique, il y a des îles. Trouvons une île qui marche. Et on s'est rendu compte, quoi, que Honolulu, enfin, l'archipel de Hawaï, c'est au pôle opposé, ben, de Gansy, au Botswana. Et du coup, ben, on est passé par Gansy au Botswana et après, on était là à Honolulu. Du coup, on a rempli les critères pour un tour du monde. Donc, c'est think out of the box, comme diraient les Britanniques. Et voilà. Ouais.
J'aime la nonchalance avec laquelle tu me dis, on est passé au Botswana, alors allez, on trace direct à Honolulu, facile. Ouais. Alors que j'ai réussi à me perdre dans Calais, et donc tout va bien.
Ah non, c'est bien, ça te donne une bonne connaissance de ta géographie mondiale.
J'aimerais quand même rendre hommage à ma femme qui, il y a deux jours, m'a dit, parce qu'on se disait, tiens, où est-ce qu'on va aller en vacances cet été ? Elle me dit, tiens, on pourrait aller en Irlande, mais putain, traverser la Manche, ça coûte un bras. Donc j'aimerais saluer ce trait d'esprit quand même et cette blague non faite exprès. Traverser la Manche, ça coûte un bras.
Oh non.
Est-ce que tu vas reprendre ton planning d'entraînement si particulier à base de lever à 5h, 4h30, 5h pour Zwifter, ou est-ce qu'au contraire tu vas faire un petit break quand même et entre guillemets avoir une vie un poil plus normale d'employé modèle?
Moi là, je vais me donner au moins 2 semaines tranquille. Et surtout que ben, toutes mes affaires, enfin, je sais pas, faudrait que je te montre le salon ici parce qu'on a stocké toutes nos affaires chez mes beaux-parents quand même. D'ailleurs, je leur dois aussi rendre hommage sur ça parce que franchement, ça a été dur pour eux, j'imagine, d'avoir autant de cartons partout. Donc déjà, il faut déjà que je remette ma maison en place, que je me remette moi aussi un petit peu en place. Voilà. Après, au niveau de l'entraînement, je vais voir franchement, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. J'envisage peut-être de faire plus du vélo normal, c'est-à-dire des entraînements plus courts, plus dans l'intensité, des club rides le week-end. Je ressens pas le besoin de me faire des séances énormes parce que je pense que j'ai une base de toute façon, là, qui est quand même solide.
Et je pense que c'est bon là, oui.
J'ai pas besoin de me faire des grosses sorties parce que je sais que je peux les faire. Donc ça va être plus, ouais, de l'intensité, des petites sorties courtes, mais il faut réapprendre à faire du 30-35 km/h parce que là, pour l'instant, je suis en mode, je fais du 150 watts pendant 12 heures, tu vois. C'est un peu l'ambiance là. Donc il va falloir que je réapprenne à pédaler vite.
Donc, tu vas retrouver ta copine Émilie. Non, c'est, ouais, c'est ça, c'est Émilie.
C'est Louise. Ouais. Ah ouais, Louise, ah ouais. C'est sûr. Non, mais Louise, je ne fais pas trop de sorties intenses à elle. C'est les café rides. Mais ça, c'est sûr que je vais faire des café rides. J'ai plein de gens à voir et à faire du social. Moi, je vais faire plus de social rides pendant quelques semaines, je pense. Parce que de toute façon, les jambes, là, elles ne servent à rien. Hein. Là, on a fait une sortie vélo récup avec mon beau-père tout à l'heure. Mais presque, ils me larguaient en haut d'école, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que je me repose, quoi. Les jambes, elles sont parties.
Tout à l'heure, enfin, vraiment au tout début de l'épisode, tu me disais, on veut montrer qu'on peut le faire, etc. Et là, maintenant, si tu devais faire passer un message vraiment de... Pas un message d'espoir, mais un
ne désespérez pas, il y a une solution.
Si j'y suis arrivé, vous aussi.
Faire du vélo, non, ouais. Donc,
non, pas un message d'espoir, mais un message d'encouragement pour dédramatiser un petit peu ce côté. Parce que là, on en rigole et tout. Vous êtes parti d'Alaska, vous avez traversé la Bolivie, tu t'es battu moult fois avec des femmes, avec des gorilles, avec des orang-outans. Tu t'es fait insulter, traiter de connasse.
Ouais.
Mais on a tendance à voir ça un petit peu comme un truc démesuré. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour dédramatiser un petit peu tout ça?
Bah déjà que t'es pas obligé de faire du 200-300 km par jour, quoi. Que l'aventure, ça se limite pas forcément à un truc où tu pars 6 mois. Je veux dire, ça peut totalement être dédramatisé. Ce dont on s'en est rendu compte avec David, c'est que franchement, de nos jours, tout est connecté, le monde est safe. Franchement, c'est pas... Si tu pars en Bolivie, tu auras la 4G. C'est vraiment, c'est un truc hallucinant. Hein, mais... Donc moi, je rassurais les gens en disant, faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'aller explorer, par exemple, la Bolivie ou un pays, ça se fait très bien. Prenez 15 jours, allez-y et allez rouler. Et surtout, se dire que si vous avez un problème sur place, mais c'est plus du tout dans l'ambiance où autrefois, tu avais genre ta petite carte et il n'y avait rien, quoi. À la limite, le pire pour ça, c'est le Canada. N'allez pas dans le nord du Canada, le Yukon, parce que là, il n'y a vraiment rien. mais la plupart des endroits, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Il y a toujours une solution. Il faut vraiment pas s'inquiéter. Moi, j'étais partie en me disant, est-ce que ça va être difficile? Et je me souviens d'ailleurs, on avait eu un coup de téléphone avec des gens qui avaient tenté de faire un tour du monde aussi. Et eux-mêmes nous avaient dit, mais ne vous stressez pas, quoi. Ça va être super sécur. Les gens, ils vont vous aider si vraiment il y a des problèmes. Il y a une solution à tout. Donc moi, c'est ce que je dis, il faut pas, je sais pas si ça aide des gens de dire ça, mais l'aventure, elle commence devant sa porte, quoi. Donc à la limite, déjà, vous n'êtes pas obligé de partir super loin et de faire du 200 km. Et si vous avez envie de partir super loin, vous pouvez faire ça en mode vacances. C'est-à-dire qu'au lieu de d'aller au Club Med pendant 2 semaines, prenez vos vélos et faites un petit tour, je sais pas, au Pérou. Ça se fait bien, quoi, et c'est safe. Voilà. Parlez avec d'autres cyclistes avant. Voyez les routes qui ont été pratiquées, parce qu'il y a des routes comme on l'a fait en Argentine, c'est pas safe du tout. Mais même là, tu vois, où on a eu des problèmes, on est allé voir un local qui nous a ramené à un point avant en voiture, et puis on est reparti de là sur du gravier, quoi. C'est pas, il y a toujours une solution. Voilà.
Quelle sagesse. Quelle sagesse. Oh là là. Est-ce que tu vas écrire un livre, Mon aventure autour du monde?
Je vais essayer parce que ça me ferait plaisir que de faire. Moi, j'adore lire les bouquins en fait sur ça, donc je me dis si je peux en écrire un qui soit bien et qui soit pas cucu, ce serait chouette. Ouais. J'aimerais faire un truc un peu marrant, quoi, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, c'est un peu, ils se prennent la tête, quoi. J'ai Marc Beaumont, quoi, j'ai relu son bouquin, mais le type me gonfle, mais d'une force, quoi. C'est vraiment, il est toujours en mode, ah ouais, c'était super dur. Tu te dis, mais attends, mes mecs, t'as un van énorme qui te soutient, t'as rien à faire. Et t'as le vent dans le dos, quoi. Arrête de te plaindre, je te jure. Ah, c'était trop drôle. Donc, un bouquin un peu sympa et accessible, ouais, ça me fait. Si je peux l'écrire, ce serait chouette.
Ouais, pour dédramatiser, finalement, un petit peu.
Pour dédramatiser. Le problème, ça va être la langue, parce que je peux pas écrire en français. Et du coup, je vais devoir écrire en anglais. Et mon anglais, il est pas non plus formidable. Donc, c'est un peu le problème des gens qui sont un peu des.
Des bâtards.
Ouais, je suis un peu une schizophrénique du langage maintenant. Je suis un peu.
Bah, tu demanderas de l'aide. Tu demanderas de l'aide à David.
Ouais, voilà, ouais. Je fais
Oui, tiens. Et puis, ouais. Non, si t'as pas envie qu'il sorte, tu demandes l'aide à David. Là, t'es sûr qu'il se passera rien.
Ouais, mais David, il est tellement pas politiquement correct. Si je laisse prendre les choses en main, ce sera terrible.
Et en plus, un anglais qui n'est pas politiquement correct. Alors, vraiment, mais la tradition des gentlemen s'émousse petit à petit, quand même.
Il est politiquement correct au travail, c'est chose officielle. Mais quand on le connaît dans la vie privée, on sait qu'il ne l'est pas.
Ouais, donc vraiment l'hypocrisie de la.
L'hypocrisie anglaise. Ah, ça m'énerve. Je lui sors tout le temps. Je dis, ah, tu sais, il rencontre des gens, il me dit, il fait toujours des grands sourires, il est très doux et tout. Et après, moi, je suis avec lui, je dis, mais t'es jamais comme ça en réalité, en fait. Je suis vraiment un gros hypocrite anglais, quoi. Alors que moi, je suis moi-même.
Bon, eh bien, ma grande, on va s'abandonner ici. Moi, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Je t'explique pas ce que c'est, tu connais par cœur. Ouais. Quand t'as fini, tu laisses ton onglet ouvert et ton ordinateur ouvert un petit peu. D'accord?
D'accord, ça marche.
Ça roule?
Ouais.
Je t'embrasse fort.
Ouais.
À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Salut.
Salut. Bye. Donc, minute de solitude. Je voulais juste commencer par remercier tous les gens qui nous ont suivis pendant notre aventure et qui nous ont envoyé des messages positifs, parce que ça nous a vraiment aidé, et de savoir aussi que le temps que je prenais à être sur Internet le soir, au lieu de dormir pour partager les aventures, de savoir que ça plaisait aux gens et que ça permettait à tout le monde de partager ce qu'on vivait, c'était vraiment chouette. Je voulais remercier mes sponsors aussi, Pédalsure, Komoot, SunGod, Villiers, Leader Orthopédics et Support Inform qui nous ont permis d'aider financièrement et matériellement. Et j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas partir pour une aventure. Moi, j'ai commencé vélo en 2017. C'est tout à fait à la portée de tout le monde, de plus en plus. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'aventuriers. C'est pour ça que les journalistes n'en ont rien à faire. Et la deuxième chose, c'est, ben voilà, comme l'a dit Richard, on organise la Race Across UK et ce serait vraiment super ben, d'avoir d'autres personnes qui viennent et qui se lancent dans l'ultra. C'est un ultra qui sera accessible à tous puisqu'il y a plusieurs formats, 300, 500, 1000 et 2005. Et puis l'ultra C, je l'ai fait et il est top. Donc si vous voulez visiter l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles, c'est une super opportunité. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous contacter. Et enfin, ben, un grand merci à Richard. J'adore les épisodes, donc ça me fait super plaisir de pouvoir participer et c'est un honneur. Voilà. Merci beaucoup. À plus.